Vous écoutez RTL.
RTL. Ouais, les pieds de cochon.
Jean-Robert Lafoy, le chef du restaurant Le Cuisine à la Sainte-Ménéhould, et les règles sont très strictes.
Ce sont uniquement des pieds de cochon, mais des pieds de devant. Jamais le pied de derrière.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce fut une victoire de Napoléon à Marengo, une ville italienne, le 14 juin 1800. À l'issue de la bataille, on lui concocta un plat mijoté à base de tomates et poulet d'abord, puis de veau au fil du temps.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il s'en passe des choses en cuisine, mais autour d'une table aussi, et d'un repas, moment de convivialité, de discussion, mais de tension aussi. Notre invité a l'excellente idée de nous raconter ces repas qui ont changé l'histoire, qui ont changé notre monde. Marion Godefroy, je rappelle que vous êtes historienne et que vous publiez l'histoire Passe à table, c'est aux éditions Payot. Vous racontez certains dîners mythiques, historiques, comme par exemple ceux, parce qu'il y en a plusieurs, organisés, on est en 1943 à Téhéran, il y a Churchill, Staline et Roosevelt. Pourquoi ils s'invitent à dîner ?
Ils s'invitent à dîner parce qu'on est en plein milieu, si l'on puis dire, de la Seconde Guerre mondiale. Les forces ont été bouleversées, c'est-à-dire que ce cher Staline, qui au départ était contre Churchill, ne l'est plus. Maintenant, il est avec Roosevelt et avec Churchill. Et puis, il faut commencer à régler le sort
Comment
de la guerre.
Comment on se sort de ça, ouais.
Alors, pour régler le sort de la guerre, il faut déjà décider d'un terrain de jeu commun aux trois grands. Alors, ce terrain de jeu ne peut pas être les États-Unis. Ça, bien évidemment, la puissance russe y refuse. Donc, on trouve finalement une sorte de média par cette ville de Téhéran.
Donc, c'est le terrain neutre où ils se retrouvent.
C'est le terrain neutre. Alors, c'est le terrain pour tout le monde, sauf quand même pour ce cher Staline qui, pour la première fois, va prendre l'avion. Ça lui sera d'ailleurs une frousse mémorable et c'est la raison pour laquelle vous aurez Yalta par la suite, parce qu'il dira « jamais plus je ne prendrai l'avion ». Pour régler le sort de la guerre, on restera à Yalta l'année prochaine.
Alors qu'est-ce qu'il mange ?
On est à Téhéran et on
alors,
a faim et on se reçoit.
Alors on se reçoit parce que c'est ainsi qu'on traite en diplomatie. C'est-à-dire que la diplomatie est quand même héritée très largement encore à cette époque du 19e siècle. L'un des exemples, c'est quand même Churchill. On ne peut pas avoir homme plus victorien que Winston Churchill et donc on s'invite à dîner. On présente des mets et c'est un véritable tour de force parce que il ne faut pas oublier à l'époque que le monde est en guerre. Donc il y a un rationnement et chacun arrive avec son petit panier repas.
Alors, par exemple, le dîner de Staline, le dîner qu'il donne.
Alors le dîner de Staline, comme tout dîner diplomatique, on commence par ce qu'on appelle un toast. On porte un toast.
Ouh là là, je sens le long discours là.
Non, c'est pas un long discours, mais ça peut être parfois extrêmement répétitif. C'est-à-dire qu'on peut avoir 24 petits toasts à la vodka. Donc, il faut quand même être soit comme Churchill, imbibé comme un baba, soit mettre gentiment son petit verre de vodka dans les plantes comme Roosevelt pour tenir tout le repas, globalement. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'au-delà de ces anecdotes, le fait de se recevoir, le fait de régler un conflit, le fait de passer par une certaine sociabilité du moment, ça montre finalement ce temps de la diplomatie alors qu'il y a le temps de la guerre partout en Europe. Et on a également un soin très particulier qui est donné à choisir les mets. Certes à Téhéran, mais plus encore à Yalta, quand Churchill, puisque chacun va recevoir l'un et l'autre à chaque fois. Ils sont trois grandes puissances, donc on ne fait pas trois repas melting pot. C'est une fois Churchill reçoit, une fois Roosevelt reçoit et la troisième fois c'est Staline. Pardon. À chaque fois, on montre ce qu'il y a de plus raffiné dans la civilisation.
Qu'est-ce qu'il y a, justement ?
Alors, quand on s'appelle Roosevelt...
À part la vodka.
Donc, quand on s'appelle Roosevelt, alors on sacrifie un petit peu à la cuisine locale, c'est-à-dire du caviar. C'est extrêmement dur. Et après, on importe déjà, finalement, la cuisine du sud des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, Roosevelt va proposer, par exemple, à Yalta, des poulets frits. Alors que, pour un homme comme Churchill, qui est donc de la génération victorienne, pour lui, recevoir, c'est également faire plaisir à son hôte. Donc, il ne va pas hésiter à proposer à Staline, un plat qui est typique de la gastronomie géorgienne, qu'on appelle le chachik de mouton, c'est-à-dire une viande de mouton qui est marinée avec certaines épices, notamment de l'ail et de l'aneth. On désosse tout ça, on monte en brochette et on présente. Donc on a finalement déjà là, finalement dans les assiettes, un décalage qui sera celui des deux mondes par la suite, avec l'art de recevoir et de mettre son invité en avant, ou au contraire la séparation qui aura lieu avec la guerre froide et les États-Unis d'Amérique.
Marion Godefroy, vous publiez avec Xavier Decteau « L'histoire passe à table, les 50 repas qui ont fait le monde », c'est chez Payot finalement. Ce que je trouve assez passionnant dans ce que vous nous expliquez, c'est que on négocie lors de ces repas, on négocie quoi ? L'après-guerre, c'est-à-dire que la séparation du monde se fait à ce moment-là en mangeant le poulet rôti que Roosevelt a fait venir des États-Unis.
Alors attention, la séparation du monde, elle ne se fait pas entre la poire et le fromage, pour reprendre une expression classique. Elle se fait également, comme tout dans tous les sommets politiques d'aujourd'hui,
avant
et surtout après.
D'accord.
Mais c'est un fait que la sociabilité de tous, elle est également au moment de ces rencontres. Et que c'est par la personnalité, par l'éducation, par le savoir-vivre, par le soin de recevoir quelqu'un qu'on va aussi appuyer ou non ces négociations. Mmh. Quand vous arrivez, que vous êtes Churchill, que vous avez ce soin-là, c'est pas très étonnant de savoir que quand Churchill a quitté Moscou dans les années 41-42, Staline lui avait mis un petit panier de pique-nique avec caviar et vodka, par exemple.
Alors avant ces dîners officiels, il y avait les banquets romains, par exemple. On va raconter comment ça se passait à l'époque.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On fait bonne chère dans la curiosité. On vous raconte l'histoire des repas, dîners et banquets qui ont marqué l'histoire avec Marion Godefroy, historienne, qui publie avec Xavier Descartes. L'histoire passe à table, c'est aux éditions Payot. Le banquet, en quelque sorte, Marion Godefroy, c'est l'ancêtre du repas officiel, on peut dire ça ?
Alors, c'est l'ancêtre du repas officiel, mais c'est pas arrivé en une journée, de même que Rome ne s'est pas créé en une journée. Mmh. Le banquet, c'est quoi ? D'abord, on est chez les Grecs, donc on est moins 500, moins 600. On prend quoi ? Du pain, un peu de fromage, une olive, et surtout, on discute. Et on discute pendant des heures. Ensuite arrive le temps de la République et surtout de l'Empire romain. Alors là, on va un peu raffiner les choses, c'est-à-dire on passe à l'Empire, il y a un peu les nouveaux riches, il faut montrer qu'on a une très belle table, recevoir. Et nous sommes là sous le second empereur romain, c'est-à-dire ce brave Tibère. Et Tibère, donc effectivement, c'est le moment du cuisinier Apicius, c'est le moment où on va choisir les plus beaux poissons, les plus beaux rougets. Et il arrive, on trouve comme ça justement, en grattant non plus dans les archives, mais plutôt dans les textes qui ont été écrits, une petite aventure qui est arrivée, à savoir que Tibère avait un magnifique poisson, et il savait qu'il avait deux excellents cuisiniers. Et il a dit, je le mets au marché pour voir lequel se battra pour avoir l'autre. C'est le second cuisinier qui s'appelle Publius Octavius qui a gagné, et Tibère a dit, vous voyez, je savais bien qu'il y en aurait un qui l'achèterait, ne serait-ce que pour que l'autre ne l'ait pas. Et Rome, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est à un moment donné où on va arriver dans un raffinement et on va arriver aussi dans une certaine lutte pour avoir certains produits.
Alors Rome, c'est le raffinement. À la fois, c'est aussi les Romains qui donnent un côté un peu orgiaque au banquet. Depuis le début de l'émission, je suis un peu fascinée par cette plume qui vient chatouiller le gosier à la fin des banquets. Ça va à quoi, Marion Godefroy ?
Alors la plume, en théorie, servait effectivement à se faire vomir. Mais il ne faut pas imaginer qu'un banquet, c'est forcément une orgie où tout le monde finit complètement par terre. C'est-à-dire qu'ils gardent ce savoir-vivre et cette discussion qui était effectivement propre aux Grecs. Mais à nouveau, dans la littérature, elle est faite par qui ? Elle est faite par des gens comme Sénèque, qui n'aiment pas forcément beaucoup ce nouvel empire. Alors, ils ne vont pas forcément écrire des choses extrêmement aimables. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il nous reste beaucoup de choses de Sénèque.
Mais c'était une habitude, vraiment, de se faire vomir comme ça à la fin des repas. Ça, on le sait ou pas ?
Non,
c'est une exagération.
Non, c'est quand même une exagération, c'est une pratique. Mais on ne se sait pas vomir systématiquement, ne serait-ce que pour une raison. Si vous faites vomir systématiquement à la fin du repas, vous avez l'acide qui vous attaque les dents et vous perdez vos sympathiques dents devant. C'est quand même plus compliqué de manger après.
C'est le moment moins appétissant de cette émission. On avait très très bien commencé avec les menus de Yalta
et de Téhéran
entre Churchill, Roosevelt et Staline. Vous avez cité le nom d'Apicius, Marcus Gavius Apicius, et son livre de recettes. C'est quoi ? C'est le premier grand livre de conseils pour recevoir
Alors, c'est pas simplement un livre de conseils, et c'est c'est un livre qui n'a pas été écrit par lui. Hein. Ouais. C'est-à-dire, on est 4-5 siècles après Apicius et on a ce témoignage-là. Néanmoins, c'est un livre qui aujourd'hui fait encore foi, entre guillemets, dans la cuisine. C'est-à-dire toute la cuisine du canard, qui est globalement du sucré salé, c'est une cuisine d'Apicius. Quand vous faites la cuisine du canard d'Apicius et que vous prenez, comme par hasard, le repas d'Obama lors de son investiture, vous avez quasiment la même chose. Vous avez un canard avec quelque chose de beaucoup plus sucré. Donc on a là une continuité, finalement, et une influence de ce qu'était la cuisine antique.
Le livre de recettes de Marcus Gavius Apicius s'appelait « Dere coquinaria ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire alors tout ce qui est déré, c'est à chaque fois des choses des connues, choses, des choses travaillées, des choses connues, des choses cuisinées. Et c'est un livre, à nouveau, qui fait foi, qui va rester et qui va être extrêmement intéressant pour tous les futurs best-sellers culinaires qui vont apparaître les siècles suivants.
Alors justement, dans la série des best-sellers culinaires, on est en 1651. Il y a un nouveau best-seller qui est le
cuisinier. Là, on a accéléré avec la machine à voyager dans le temps. Là, on a mis un gros coup sur l'accélérateur.
Ça marche bien dans la curiosité, notre machine à voyager dans le temps. Quelle est l'histoire de ce livre de recettes ?
Alors, on a fait un bond de 1000 ans. On a évité le Moyen-Âge. Xavier, si tu m'entends, tu me pardonneras. Et on arrive directement donc, dans la période moderne, effectivement, avec un livre de cuisine qui est un livre de cuisine comme on les aurait aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement bien organisé, qui traite également des sauces. Et puis surtout, un livre qui fait pâlir d'envie tous les éditeurs, puisque lorsqu'il paraît cet ouvrage en 1651, il n'y a pas d'ouvrage de cuisine quasiment depuis un siècle. Donc c'est le gros boom, tout le monde se l'arrache, plus de 250 rééditions quasiment pendant plus d'un siècle et demi, on l'a publié jusque dans les années 1850, ce qui est assez remarquable.
Ça ne plaît pas encore un best-seller, mais c'est un best-seller.
C'est un best-seller de l'époque et c'est ce qui va faire foi. C'est la première organisation aussi un petit peu rationnelle de ce qu'est la cuisine, de ce qu'est les sauces et surtout pour la première fois on voit on mange bleu, on mange rosé, c'est-à-dire des cuissons qui vont rester aussi pour nos goûts de l'époque et qui vont permettre, quel que soit votre maître queue quand vous êtes prince, d'avoir une cuisine assez homogène.
Ce titre, c'est le cuisinier François, c'est ça ?
Français.
Français, ça veut dire quoi ? C'est le cuisinier français, c'est-à-dire c'est la cuisine de France.
La cuisine de tous les princes, les comtes, les ducs, toutes les maisons bourgeoises.
Ah oui, donc c'est pas la cuisine populaire encore. Et pourtant, ça va venir
quand même...
La cuisine
populaire, ça n'existe pas.
D'accord.
Ça, c'est une appellation qui est extrêmement contemporaine. À l'époque, vous avez une cuisine qui est la cuisine des tables, qu'on met effectivement avec toute l'aristocratie, et la cuisine qui est la cuisine quotidienne, qui est celle effectivement du paysan. Mais la cuisine populaire, c'est une appellation qui est à l'époque anachronique.
De l'autre côté des infos, on continue notre tour de table avec nos puissants, nos plus grands maîtres de l'histoire.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant dans la curiosité. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien, toujours.
La forme, hein.
C'est bien, on se redit bonjour deux fois par émission, c'est mieux, mais c'est poli.
Parce que je vous avais un peu oublié pour la première heure, c'est pour ça.
Ah, c'est sympa.
Ça m'a surpris de vous voir là.
Et donc vous restez la deuxième ?
Oui, je vais rester jusqu'à la fin.
Bon, d'accord, on va faire avec vous. Alors on va grimper à bord d'une voiture typique, mythique, la Peugeot 404. Et pour l'instant, on continue de s'asseoir à la table des plus grand, Thomas Hugues, vous restez bien sûr.
Mais oui.
RTL.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Les oies, très bon, parce que ça gras. Le troupeau de moutons. L'omelette des titans. Avec 8 douzaines de faits. Le bœuf, ça fond dans la bouche.
La curiosité est un vilain défaut.
Et comme un défaut. Et des biscottes. Des macarons. Un tire-bouchon. Des petits beurres.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je pourrais jamais tout manger, Thomas. Hein. Il y a trop, arrêtez.
Ça fait un joli menu. On vous raconte l'histoire des repas qui ont fait le monde, qui ont fait l'histoire, grâce à notre invité, l'historienne Marion Godefroy. Bref, on fait ripaille ce soir dans la curiosité. Tiens, d'ailleurs, d'où il vient ce mot, Marion Godefroy, le mot ripaille ?
Ah, très bonne question. D'où vient le mot ripaille ? Alors, ripaille, c'est... là, on repart. On est au milieu du 15e siècle et on est avec un futur antipape. Cette chose a existé dans l'histoire. Le futur antipape, c'est Amédée VIII de Savoie. La Savoie est à l'époque extrêmement riche. Et il a un château qui est attaché à un prieuré, qui est ce prieuré de Ripaille. qu'est-ce qui se passe ? Il se passe donc l'organisation d'un banquet, pour une cour extrêmement nombreuse. Donc il faut nourrir tout le monde, y compris toute la domesticité. Et son maître queue, qui s'appelle maître Chicard, bien évidemment, garde finalement le témoignage de tout ce qu'il a mangé. Alors la liste est assez impressionnante. Il y a eu 100 bœufs, 130 moutons bien engraissés, 120 porcs et pour chaque jour de fête, 100 porcelets à rôtir ou pour les autres ouvrages, des agneaux, du gibier, des poissons, des mammifères marins et même un petit dauphin.
C'est le festin le plus long de l'histoire.
Alors, on ne peut pas dire que c'est le plus long parce que je pense que dans les mille et une nuits, il y a aussi des références littéraires assez importantes. Hein. Dans les mille nuits et une nuits, on mange quand même énormément. Mais il nous est resté attaché finalement à ce nom de ce prieuré pour faire ripaille. Et aussi parce que finalement, le maître queue qui organisait, maître Chicard, c'était un vilain menteur. Et qu'il promettait aussi à ses invités, par exemple, des paons, qui sont des animaux qu'on ne mange pas forcément, mais qu'on dresse sur les tables. Et en fait, qu'est-ce qu'il prenait ? Il prenait les plumes, une oie, hop, ni vu ni connu. Et comme ça, on pensait qu'on avait un magnifique pan. Mais là aussi, la table, la magnificence qu'on va poser dessus, la nef qui contient le sel, le poivre, le fait que ce soit Amédée VIII, un duché extrêmement riche, comme l'est la Savoie à l'époque, sont restés comme un monument important de l'histoire et diplomatique et culinaire.
Et le mot nous est resté. Et depuis, on fait ripaille.
J'ai faim quand je te regarde. Je pourrais dévorer ton visage.
J'ai faim de tout ce que tu es. Le bon, le mauvais. Tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim de tout ce que tu es. Je ne peux pas lutter. C'est tout ce que je sais.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Bah on reste à la table des puissants avec cette poule au pot du roi Henri IV. Pourquoi c'était son plat préféré ? Est-ce qu'on est dans une légende racontée par les historiens ? Est-ce que c'est vraiment son histoire ?
Alors, on n'est pas tout à fait dans une légende. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on est aussi avec la Savoie. Donc, Henri IV, Paris vaut bien une messe. Et il a envie que la France soit riche. Et quand donc Sully est bien évidemment là. Et justement, quand il dit labourage et pâturage, le laboureur, c'est quoi ? C'est celui qui a de quoi tout seul labourer, qui possède son instrument de travail, donc qui n'est dépendant de personne. Or, un jour, il rencontre justement un autre duc de Savoie qui lui explique fort gentiment que bon, la Savoie, c'est toujours très riche, hein, on a bien compris, depuis ripaille, ça ne change pas beaucoup. Et des années plus tard, on rapportera que la réponse du roi a été « Oui, mais je veux que chaque paysan ait sa poule pour faire effectivement sa poule au pot. »
C'est une métaphore.
C'est une métaphore et ça voulait dire que finalement, en cuisinant ce plat-là, le laboureur montrerait sa richesse et donc la richesse de la France.
Marion Godefroy, vous publiez l'histoire passe à table aux éditions Paillon. On peut lire toutes ces histoires absolument passionnantes. Et vous vous demandez si ce n'est pas la gourmandise qui a perdu Louis XVI, qui était en fuite en 1791, que se serait-il passé ?
C'est pas la gourmandise qui a perdu Louis XVI, mais il est évident que les Bourbons ont une bonne part dans la responsabilité de la Révolution française, si l'on peut dire. Pour brosser très schématiquement, on part de Louis XIV. C'est le premier des Bourbons, la lèvre boudeuse, un profil pas forcément sympathique. Il n'y a qu'à regarder Juan Carlos aujourd'hui, on est quasiment le même. Le repas, il est devant toute l'aristocratie réunie. Le roi est seul à table. Louis XV, on commence déjà à dévier. On a ce qu'on appelle des petits soupers. Alors petits, 40 personnes, 40 couverts, mais on ne dîne plus forcément en public. Et Louis XVI, c'est le souper intime, c'est l'invention également de la salle à manger, c'est-à-dire ces tables qui apparaissent du sol, sans qu'il y ait de domesticité pour servir. Louis XVI, qui est dans cette évolution-là, et à l'époque, par les caricaturistes, notamment au moment de la Révolution française, nommé, il y a le boulanger, la boulangère, le petit mitron, mais il y a aussi l'idée du roi cochon. Et donc, lors de la fuite de Varennes, effectivement, il se comporte encore comme un roi, c'est-à-dire il descend de sa berline, il salue, il va lentement. Le problème, c'est que derrière lui, il y a la Révolution qui est sur un cheval et qui est à grand galop. Donc, Camille Desmoulins, lorsqu'il veut montrer finalement que
journaliste,
ce roi...
Journaliste, c'est ça ?
Oui, il n'avait pas sa carte de presse, mais...
Il l'aurait eu de nos
il
jours.
Il l'aurait peut-être eu de vos jours, c'est vrai. Donc, Camille Desmoulins qui veut finalement... accroché sur cette image du roi cochon, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire que le roi est forcément allé lentement. Il va dire que la gourmandise du roi, ce temps, l'a perdu et qu'il se serait arrêté à Sainte-Ménéhoule pour manger des pieds de porc qui sont un des mets aussi à l'époque extrêmement raffinés.
Donc plutôt une légende inventée par un journaliste qui donc ne méritait pas sa carte de presse ou
Dans les légendes, il y a toujours une part de réalité. On ne le saura jamais puisqu'on n'a pas finalement les minutes du voyage de Louis XVI. Mais ce qui est intéressant, c'est de retenir c'est cette figure du roi cochon qui jusqu'au bout finalement est caricaturée.
Et le poulet maringot de Napoléon, d'où vient-il? Est-ce que était un grand gourmand?
Napoléon n'est pas un grand gourmand, Napoléon est un militaire. Donc Napoléon, quand il est en campagne, il sait bien mener ses troupes, mais forcément, on ne passe pas à table de la même façon. Quand il faut avoir la petite cantinière de service avec les milliers de volailles qui se baladent, c'est extrêmement différent. Donc Napoléon part, il fait campagne, il était parti en Italie quasiment tout seul, avec trois copecs, il revient, il est vainqueur. Et surtout, il va ramener de ses campagnes en Italie, presque malgré lui finalement, deux inventions. La première, c'est la poêle. Je vous rappelle qu'à l'époque, on prend la bestiole entière, on la plonge et on la fait mijoter type pouloupeau dont nous venons parler, ou alors on la rôtit à la broche. Or, en Italie, on découvre qu'on peut découper une volaille à cru, qu'on peut la faire sauter et qu'on peut ajouter donc ces tomates qui sont ces légumes du Nouveau Monde et qui étaient passés par les tables des Médicis. C'est une recette qui est extrêmement proche de ce qu'on peut manger encore à Rome aujourd'hui. Une sorte de petit poulet sauté au vin blanc dans lequel on met parfois même une branche de romarin et qui effectivement revient avec les campagnes de Napoléon.
Alors, il avait une devise, Napoléon, et vous la reproduisez dans votre livre. Quand on veut manger bien, on dîne chez Cambacérès. Quand on veut manger mal, on dîne chez Lebrun. Et quand on veut manger vite, on dîne chez moi. Donc ça disait tout du personnage.
Oui, et heureusement, Talleyrand n'a pas ajouté encore un petit propos méchant, parce que là, je crois que ça aurait été complet. Lui qui disait, pour justement qualifier Napoléon, Cambacérès et Lebrun, hic avec hoc. Donc hic, c'était celui-ci. Avec celle-là, parce que c'était les petits penchants de Cambacérès. Et hoc, l'espèce de neutre, à savoir Lebrun.
Merci beaucoup.
Merci.
Marion Godefroy avec Xavier Detco. Vous publiez L'Histoire passe à table, c'est aux éditions Payot.
Vous écoutez RTL.